RFI, il est midi à Paris, 11h en temps universel.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal, une journée sous le signe des négociations à Riyad en Arabie Saoudite. Avec l'Ukraine au centre de l'attention, Russes et Américains débutent des discussions aujourd'hui, au lendemain d'une rencontre entre responsables ukrainiens et américains qui souhaitent un arrêt provisoire des frappes sur les sites énergétiques. Mais pour l'instant, la guerre en Ukraine se poursuit. Elle a eu d'importantes conséquences économiques en Europe avec l'explosion des prix de l'énergie. On s'intéressera au gouvernement français qui a annoncé la semaine dernière que le patron actuel de EDF ne serait pas renouvelé. Et puis un procès très attendu, symbole de la vague hashtag MeToo dans le milieu du cinéma français. L'acteur français Gérard Depardieu est jugé à Paris pour agression sexuelle sur deux femmes lors d'un tournage en 2021. À l'heure où la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, lancée en mai dernier à l'initiative de l'actrice Judith Godrèche, touche à sa fin. Mais avant tout ça, on vient de l'apprendre, à Paris, le concert Solidarité Congo est confirmé pour le 7 avril à l'Accor Arena. C'est en tout cas ce qu'annoncent ce lundi les organisateurs de cet événement caritatif d'aide aux enfants victimes de l'actuelle crise à l'est de la RDC. Début mars, les autorités rwandaises avaient vivement critiqué ce projet car le 7 avril marque chaque année le début des commémorations du génocide des Tutsis. Les organisateurs du concert, où sont annoncés notamment Gims et Youssoufa, indiquent que la date choisie n'est pas un choix politique. Quel avenir pour l'Ukraine? Ce lundi ont débuté des discussions à Riyad en Arabie Saoudite entre Russes et Américains. Des négociations qualifiées d'emblée de difficiles par le Kremlin, 3 ans après le début de l'offensive russe en Ukraine. Des pourparlers indirects ont également débuté ce dimanche entre les représentants ukrainiens et américains. Kiev se dit prête à un cessez-le-feu général et sans condition. Alors comment ces négociations sont-elles perçues en Ukraine? Écoutez la réponse du politologue ukrainien Mikhailo Chabanov.
En tant que citoyen ukrainien, je suis vraiment très inquiet du format même de ces négociations. Ce sont des négociations sur l'Ukraine, mais sans l'Ukraine. En tant que politologue, je comprends que parfois une troisième partie peut aider à dialoguer quand deux camps ne peuvent pas se rencontrer pour diverses raisons objectives. Mais ici, on voit que cette troisième partie, que ce soit le président américain ou ses représentants comme Steve Witkoff, défend surtout les intérêts des États-Unis. C'est préoccupant, car au lieu d'être un véritable médiateur, Donald Trump impose surtout son propre point de vue et n'écoute pratiquement pas la partie ukrainienne, ou alors de manière très fragmentaire.
Des propos recueillis par Kristina Petkova. Et l'Ukraine est aussi au centre de l'attention en Europe aujourd'hui à l'occasion d'un sommet de dirigeants centristes européens à Paris. Objectif, déboucher sur une déclaration commune favorable à la saisie des avoirs russes pour soutenir l'Ukraine et à l'entrée de ce pays dans l'Union européenne, a expliqué le président de Renaissance, Gabriel Attal. La guerre en Ukraine qui a eu d'importantes répercussions économiques pour les Européens avec l'explosion des prix de l'énergie, un sujet majeur pour les industriels. Et dans ce contexte, le gouvernement français a fait savoir en fin de semaine dernière qu'il ne renouvellerait pas le mandat actuel du patron d'EDF, l'entreprise publique d'électricité française. Pour en parler avec nous en studio, Nathanaël Vitran, bonjour.
Bonjour Juliette.
Nathanaël, comment faut-il comprendre ce changement à la tête d'EDF?
Alors, le gouvernement a pris soin de préciser que ce n'était pas une sanction à l'écart de Luc Rémont, dont le mandat prendra fin à l'été. Mais les désaccords entre le patron de l'électricien et l'exécutif sont de notoriété publique. Il était surtout dans le collimateur des patrons et des industriels français qui jugeaient et qui jugent toujours les prix d'électricité en France prohibitifs. Écoutez par exemple Benoît Bazin, le patron du géant du BTP Saint-Gobain.
L'électricité ou l'énergie, c'est le premier facteur de compétitivité. Nous avons déjà différé des investissements industriels en France parce qu'on n'a pas de visibilité sur l'énergie au 1er janvier 2026. Ce qu'on nous dit, c'est qu'elle pourra doubler. Ouais. C'est plus 100%. Donc c'est pas plus 5%, 10%, c'est plus 100%. C'est un bras d'honneur. Je suis désolé. C'est pas possible qu'on
EDF
fasse.
EDF vous fait un bras d'honneur.
À l'industrie française.
Ah, c'était jeudi dernier sur BFM Business. Le lendemain, le Premier ministre faisait savoir que le mandat de Luc Rémont ne serait pas renouvelé. Visiblement, l'État a entendu le message des industriels alors que les négociations sont en cours entre EDF et le privé pour établir des contrats à long terme. Pour traduire, le contexte géopolitique fait que les prix de l'énergie peuvent être très volatiles et les contrats à long terme permettre de garantir un prix fixé à l'avance sur plusieurs années aux entreprises. C'est indispensable. De toute évidence, il y avait une divergence de point de vue entre l'exécutif français, le gouvernement, et la direction du groupe public sur où fixer le curseur de ces contrats. Hier, le patron d'EDF a défendu son bilan dans le Figaro, estimant ne pas avoir de leçons de patriotisme économique à recevoir et d'ajouter « une entreprise publique n'est pas là pour faire des subventions à un petit club privé ». Fin de citation, ambiance.
Et est-ce qu'on sait qui va le remplacer ?
Alors, il faudra de toute façon le feu vert de l'Assemblée et du Sénat, mais on sait qui a les faveurs du Premier ministre et du Président français. Il s'agit de Bernard Fontana, l'actuel patron de Framatome. Framatome, c'est une filiale d'EDF et surtout, c'est l'un de ses principaux fournisseurs pour tout ce qui concerne l'industrie nucléaire. C'est l'autre dossier sur lequel le gouvernement veut accélérer. Emmanuel Macron avait annoncé en 2022 la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires de nouvelle génération, les EPR2, un chantier à plusieurs milliards d'euros en investissement sur plusieurs dizaines d'années. En choisissant un spécialiste pour diriger EDF, l'État espère éviter de répéter la catastrophe du chantier de l'EPR de Flamanville livré l'an dernier après 12 ans de retard et un coût multiplié par 6.
Les explications de Nathanaël Vitran du service économie de RFI. En France, toujours, c'est un procès très attendu, un symbole de la vague hashtag MeToo dans le milieu du cinéma français. Le procès de l'acteur Gérard Depardieu, c'est aujourd'hui. L'audience doit débuter à 13h30, heure française. Après un renvoi à l'automne, l'acteur est donc jugé à Paris pour agression sexuelle sur 2 femmes lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021. Un procès qui pose la question de la prise en compte des violences sexuelles sur les tournages. Avec cette question, comment les dénoncer et comment mieux protéger les acteurs et actrices majeurs ou mineurs, eh bien c'est le rôle d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale de répondre à ces interrogations. Lancée en mai dernier à l'initiative de l'actrice Judith Godrèche, elle touche à sa fin et les députés qui en sont membres ont des propositions concrètes en tête pour faire évoluer le cadre législatif. Baptiste Coulon.
Ce fut l'un des temps forts des auditions menées par la commission. Le témoignage de l'actrice Sarah Forestier qui accuse son partenaire de jeu Nicolas Duvauchel de l'avoir giflé sur un tournage en 2017.
Et en fait, on essaye de m'empêcher d'aller au commissariat. L'équipe panique, quoi. Ils savent pas gérer ce genre de situation. À ce moment-là, il y a qu'une seule chose qui prend toute la place, c'est la peur. Par rapport à l'argent, par rapport aux assurances. Et donc, en fait, tout de suite, ce qu'on fait, c'est qu'on met la poussière sous le tapis et la victime doit encaisser.
L'actrice a depuis déposé plainte, l'acteur, lui, nie les faits. Comédien, réalisateur ou producteur, durant 6 mois, ils ont été plus d'une centaine à être auditionnés par la commission d'enquête. Sa présidente, la députée écologiste Sandrine Rousseau, dresse un bilan contrasté.
Il y a quelque chose entre le vécu des personnes victimes, qui relatent des faits récurrents, et de l'autre côté, un monde du cinéma qui comprend l'enjeu, mais qui reste encore assez aveugle à la réalité des vécus des personnes.
Un aveuglement et des défaillances. Exemple concret, l'audition de la réalisatrice Catherine Corsini. Violence verbale, gestes déplacés. En 2022, le tournage de son film Le Retour est chaotique. À cela s'ajoute une scène à caractère sexuel impliquant une actrice mineure non déclarée auprès de la commission des enfants du spectacle.
Je me suis dit, bon voilà, ils sont d'accord et ça les a fait marrer. Ils ont dit, bon, on y va, on l'a fait rapidement et puis ça s'est bien passé, quoi, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'aurait pas dû le faire.
S'il y a un coach d'intimité, voilà. Ça simplifie tout, en fait.
À l'époque, moi, je n'avais pas encore à l'esprit que c'était dans les pratiques le coach d'intimité. C'est vrai, je pensais que l'intimité, c'est moi qui l'avais avec les acteurs et qui, voilà, j'ai voulu travailler de cette manière-là sur ce tournage.
Le coordinateur d'intimité, ce médiateur entre réalisateur et comédien qui encadre les scènes intimes. Un métier peu développé en France et pas obligatoire sur les plateaux. Alors, c'est l'une des priorités identifiées par la commission et sa présidente, Sandrine Rousseau.
Les coordinateurs d'intimité, c'est vraiment parmi les personnes qui manquent aujourd'hui dans les tournages. Il faut qu'on sache exactement ce qui va être tourné, ce qui va être monté, ce qu'on va retenir comme plan. Ça, c'est absolument indispensable.
Indispensable au point de figurer en bonne place dans le compte-rendu final de la commission, explique son rapporteur général, le député MoDem Erwan Balanan.
Il faut rendre systématique le fait que les coordinateurs d'intimité soient proposés et qu'ils soient obligatoires si l'un des deux protagonistes souhaite qu'il y ait un coordinateur d'intimité.
L'une des nombreuses propositions du rapport final publié début avril et qui débouchera peut-être sur une proposition de loi.
Le reportage de Baptiste Coulon. Dans le reste de l'actualité internationale en Turquie, la contestation se poursuit après l'incarcération du maire d'opposition d'Istanbul, accusé de terrorisme et de corruption. Ekrem İmamoğlu est suspendu de ses fonctions et incarcéré depuis hier. Plus de 1000 manifestants ont été arrêtés depuis mercredi, selon le ministre turc de l'Intérieur. Et dans la foulée, on l'a appris ce matin, il a été officiellement désigné candidat à la prochaine élection présidentielle prévue en 2028 par son parti. RFI, il est midi 10, tout de suite, grand reportage.